Je m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast « Le maudit poids », prépare-toi à être surpris, à peut-être même être choqué par ce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. Prendre note que dans ce podcast, j'agis à titre d'animatrice. À noter donc que je ne peux endosser les propos tenus par mes invités puisqu'ils représentent leur opinion et expérience personnelle. En aucun cas, les propos tenus dans le cadre de cet épisode ne représentent des conseils nutritionnels personnalisés. Si jamais tu as besoin d'accompagnement, je t'invite à consulter le répertoire des nutritionnistes diététistes sur le site de l'Ordre professionnel des diététistes nutritionnistes du Québec, soit odnq.org. Merci et bonne écoute! Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, je suis avec Cathy Savard, qui est travailleuse sociale. Bonjour Cathy!
Bonjour Sarah! Ça me fait plaisir d'être là!
Merci tellement! Ça va être un super bel épisode! Comment tu vas Cathy aujourd'hui?
Ça va très bien! Je sais pas toi dans ta région, mais moi ici, il fait très beau, ça fait du bien! Ça redonne un beau boost d'énergie.
Oui! Là, on enregistre à l'été, gang. Je sais pas, il va être quelle date que vous allez nous écouter. Moi, il fait chaud et humide, puis il y a des tondeuses. Je suis juste plus capable des tondeuses. Je sais pas pourquoi j'enregistre l'été, là. En fait, je sais, j'ai plus de temps. Mais oui, j'apprécie la chaleur et le beau temps, mais les tondeuses font qu'il faut que je ferme toutes mes fenêtres. J'ai pas d'air climatisé, j'ai chaud. Mais c'est pas grave, je suis contente d'enregistrer mes podcasts. Fait qu'on le fait pareil, puis c'est le fun.
T'es magnifique, Sarah. Moi, j'ai la chance de te voir et tu es magnifique, même si tu as chaud.
Oui, c'est très gentil. Ah, fait que Cathy, on a plein de choses à se dire. Cathy, elle est travailleuse sociale, puis je trouve personnellement que c'est un métier qui est méconnu dans le domaine de l'image corporelle, des troubles alimentaires et autres aussi, que ce soit, là, on va parler aussi des adolescents. Vous pouvez tellement faire de choses, mais le traditionnel, la travailleuse sociale qu'on connaît, c'est dans le réseau de la santé, ça va être dans les CLSC, ça va être à la DPJ, ça va être dans les hôpitaux. Nouvellement, dans les cliniques médicales, dans les GMF, les groupes de médecine familiale, j'en parle parce que moi, j'ai travaillé là pendant 5 ans. Puis, j'ai débuté ma pratique avec les travailleurs sociaux qui commençaient, elles aussi, dans les GMF avec le nouveau programme dans ce temps-là. Et j'ai découvert ce que les travailleurs sociaux pouvaient faire, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, j'aurais aimé ça que, justement, tu nous parles un peu de ta profession. Puis là, je veux juste faire une parenthèse aussi. Toi, tu travailles au privé. Je voulais voir un peu aussi avec toi, ben c'est quoi ta profession? C'est quoi la différence entre une travailleuse sociale puis une psychologue? J'aurais aimé ça qu'on démystifie ça parce que des fois, c'est très, très mêlant. Puis, ben du côté personnel, c'est sûr que j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a poussé à développer ta pratique privée comme moi. Quitter le réseau de la santé, la sécurité. Fait que j'ai comme plein de questions, Cathy.
Oui, ben écoute, on peut commencer par probablement, Sarah, que j'ai quitté le réseau de la santé à peu près pour les mêmes raisons que toi. Moi, je me sentais un peu comme dans une cage, je me sentais en prison, hein, puis j'avais vraiment le désir de laisser aller ma créativité dans mon offre de service, puis d'être autonome aussi dans ma pratique, tout en respectant, bien sûr, le fameux notre ordre professionnel.
Oui.
Mais c'est sûr que moi, j'avais ce désir-là de voler de mes propres ailes puis d'avoir plein de projets. Donc, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le réseau de la santé, dans plusieurs programmes. Je ne sais pas pour toi, dans ta profession, mais pour nous, ben on fait le tour,
oui.
Là, on se promène.
Ah oui, mon Dieu, oui. J'en ai bouché des trous au début. Non, mais tu sais, je dis ça comme ça pour niaiser, mais quand tu commences, tu fais tous les secteurs, puis tu te rends compte qu'il y en a tabarouette des secteurs dans un CIUS. Puis oui, la nutrition, c'est... Oui, mais vous aussi, là, c'est... Mais ça se ressemble quand même, là. Partout où vous êtes, on est aussi, puis c'est totalement différent. Totalement différent.
Hey, tellement. Tu sais, je me souviens au début, là, j'ai été comme garrochée dans tous les programmes. Tu sais, tu sors de l'école, Tu as juste tes bases, tes techniques, tu sais qu'il faut que tu fasses ton évaluation, ton plan. Mais tu sais, de travailler avec différentes clientèles, moi j'ai trouvé ça quand même assez challengeant. Fait que j'ai vraiment fait de tout, autant de la santé physique. J'ai toujours eu de l'intérêt pour la psychiatrie. D'ailleurs, j'ai fait mes deux stages en psychiatrie adulte. Mais évidemment, je me suis promenée de secteur en secteur. Donc, je pense que là, je suis assez 0-100 ans, là. Je pense que c'est ça. J'ai quand même, je dirais pas une expertise, mais j'ai quand même touché à un petit peu à tout. Quand il y a eu l'implantation des GM, ben, des travailleurs sociaux, de l'équipe de professionnels dans les GMF, ben, j'ai occupé un poste là, dans les GMF. Donc, j'ai fait partie de cette vague-là.
OK.
Mais rapidement, j'ai eu l'opportunité là, d'avoir un poste en pédopsychiatrie. Donc, comme c'était dans mes vraiment dans mes champs d'intérêt, ben, j'ai changé de... C'est ça, j'ai quitté le GMF là, pour aller en pédopsychiatrie.
Wow! Fait qu'on va en reparler, c'est sûr, de tout ça. Merci.
Assurément. Assurément qu'on va en reparler, oui. Ouais.
Super. Puis, est-ce que tu veux nous donner un peu... ben, pas une image, mais une idée de, justement, tu sais, qu'est-ce que ça fait concrètement une travailleuse sociale?
Oui, ben c'est une grande question. Hein. Souvent, je me la fais poser. Là, c'est quoi la différence entre une TS, un psychologue? Puis, en fait, nous, ben, l'approche en travail social, ben, on ratisse l'âge. En fait, vraiment, là, moi, les premières rencontres, là, je pose des questions pour vraiment comprendre tous les milieux de vie, toutes les sphères de vie de la personne. Donc, l'objectif, tu sais, en tout cas, moi, l'image que j'aime bien donner aux gens, c'est, tu sais, sphère de vie, équilibre dans les différentes sphères de vie.
C'est bon, donc, j'aime ça.
Ça, c'est une de nos particularités, hein, les travailleurs sociaux. Donc là, à partir du moment où on a bien évalué la situation dans toute son entièreté, bien, ça nous permet justement de rédiger une évaluation du fonctionnement social. Puis à partir de ce moment-là, on a une bonne compréhension des enjeux, des problématiques de notre système client. Donc, quand je parle de système client, bien, nous, on n'a pas uniquement, on n'intervient pas uniquement en individuel.
Oui.
On peut travailler en couple, on peut travailler au niveau familial, on peut travailler au niveau de la communauté. Donc, c'est vraiment, vraiment varié là, de la façon qu'on intervient. Puis je te dirais, une de nos particularités aussi, c'est on est plus en suivi court terme, normalement. Donc, c'est sûr que nous, on bâtit un plan d'intervention avec notre système client à partir d'objectifs concrets, puis on pose des actions concrètes. Donc, on utilise vraiment des outils pour que notre client puisse cheminer concrètement et puisse bâtir un coffre à outils. Moi, chacun de mes clients, là, je leur dis toujours, quand tu vas repartir, là, ben, ton coffre à outils, là, il va déborder.
Ouais.
Fait que c'est l'image que j'aime leur donner. Fait qu'à chaque fois, moi, je leur dis, ben, tu vas avoir des outils, tu vas avoir des objectifs, des défis à faire à la maison. Puis on revient par la suite sur, ben, c'est quoi les défis? Qu'est-ce qui a fait que ça a été plus difficile de réaliser tel ou tel objectif. Donc, c'est très dynamique. Tu sais, on est vraiment...
C'est dans l'action, là.
Beaucoup.
Parce que des fois, si je peux me permettre, pour avoir utilisé les deux services pour moi-même, c'est la grosse différence que je voyais. Puis j'aimerais ça qu'on en parle aussi de dans quel contexte un est peut-être plus intéressant que l'autre, parce que de la thérapie en tant que telle, qu'on va en psychothérapie, qu'on va consulter un psychologue, on n'est pas autant dans l'action, on est beaucoup dans la réflexion, la compréhension, on veut aller déconstruire des choses, mais quand on est avec le travailleur social, là, c'est ça, c'est go, là. Là, c'est beau, je suis prêt à bouger, mais je sais pas comment faire, mais c'est go. On fait des objectifs, on pose des actions concrètes, comme tu dis, on acquiert des outils. Ce que je trouve, c'est que c'est très concret. C'est beaucoup ici et maintenant, tandis qu'en psychologie, que le besoin n'est pas dans le ici et maintenant, puis qu'il faut retourner dans l'antérieur, puis aller retravailler des choses. Je ne sais pas si ma compréhension est bonne, là.
Ben oui, tout à fait. Hein. C'est ça, il y a vraiment une nuance entre les deux, hein, parce que c'est sûr qu'en psychologie, ben, c'est de la thérapie, donc on va aller creuser, on va aller déconstruire des schèmes de pensée. Donc, c'est vraiment, le travail est différent entre les deux.
Oui.
Comme tu l'as dit, ben, le fait que ce soit concret, puis toi, tu l'as expérimenté un peu, c'est ça la différence. Donc, tu sais, je te dirais, c'est un peu ça la distinction entre les deux. C'est très
Puis dans...
résumé, là, mais.
Très, très, oui, très, très, très résumé. Puis j'imagine que ça pourrait être complémentaire aussi comme approche. Mettons, on prend un continuum de processus thérapeutique. On prend quelqu'un qui. Je vais prendre les auditrices du Maudit Poil, par exemple. Je vis de la difficulté, soit avec mon image corporelle, je vis de la difficulté avec la relation avec ma nourriture. Je sors de la culture des diètes, puis j'essaie d'entamer une démarche. D'une alimentation qui va être plus une relation avec la nourriture qui va être plus neutre, que ce soit l'alimentation intuitive ou de changer ma vision que j'ai par rapport à mon corps, de travailler mon estime personnelle aussi. Est-ce que dans un contexte comme ça pourrait être possible d'utiliser juste le soutien, les outils de la travailleuse sociale, ou si je me rends compte que j'ai peut-être justement des choses à aller déconstruire, que pour une certaine partie du continuum, j'utilise la psychologie, puis qu'après ça, ben là, j'ai besoin d'avancer, de du concret, et que là, j'utilise les services des travailleurs sociaux.
C'est tellement un bon point. Vraiment, là, je trouve que c'est un excellent point parce que oui, effectivement, parfois, on doit partir du fond, on doit partir de ce qui se cache en dessous, déconstruire certaines choses. Puis après ça, on peut se mettre dans l'action pour actualiser vraiment notre plein potentiel. Puis, mais parfois, c'est l'inverse. Moi, ça m'est arrivé
Ah,
de
c'est
débuter
bon.
un suivi avec quelqu'un, puis finalement, en évaluant la situation, ben là, on se rend compte que, OK, ben, il y a peut-être comme un oignon, tu sais, il y a peut-être quelques pelures à aller enlever avant d'être dans le concret puis d'être dans l'action. Donc, à ce moment-là, ben, moi, je dis toujours aux personnes que j'accompagne, OK, tu sais, tu es venu vers moi, mais moi, je vais évaluer ta situation, puis
Mais
si
oui.
je me rends compte que, ben,
Mais
c'est
oui.
un autre professionnel, ben,
Ouais.
je veux dire, je vais te référer à un autre professionnel. Fait que
Ça
parfois,
m'arrive aussi, là. Oui, ça m'arrive aussi. Ben oui.
ben oui, tout à fait. Donc là, dans une situation comme ça, ben moi, je vais référer la personne à un autre professionnel, que ce soit, ça m'est arrivé en psychothérapie, tu sais, au niveau de la sexologie, en psychologie.
Ouais.
Fait que des fois, ça part de différentes problématiques, puis on peut pas être des experts dans tout.
Ben non, ben non. Mais c'est ça qui est le fun aussi, c'est que si tu veux être expert puis spécialisé, ben c'est j'ai pas le mot français, mais il faut que tu acknowledges que ben, on va dire que tu acceptes ou que tu comprennes que tu peux pas être spécialisé dans tout. Parce que si tu es vraiment spécialisé, tu es passionné, tu ne lis que sur ton sujet. Tu te mets à jour que sur ton sujet, mais tu peux pas faire ça sur tous les sujets, dans le sens que tu peux avoir plusieurs sous-sujets, mais tu peux pas être. Moi, je dis tout le temps la blague, parle-moi pas de tes intestins, je pourrais pas t'aider, là. La diète FODMAP, je la ferai pas, là. C'est pas parce que le mot diète en avant, là, c'est pas vraiment, bon, c'est pas vraiment une diète, là, ça s'appelle comme ça, mais dans le sens que pour l'intestin irritable, quand c'est très complexe, c'est pas moi qui va t'aider, je vais t'envoyer voir ma collègue chez Référence Nutrition qui est experte là-dedans. T'as un diabète de type 1, viens pas me voir, je vais t'envoyer voir Claudia avec qui je travaille chez Référence Nutrition. Et on a toutes nos spécialités, puis ça a beaucoup de valeur aussi, là, puis c'est bien, là.
Ah, tout à fait. Ben oui. Puis un enjeu, je trouve, au privé, ben c'est qu'au début, ben on part, on n'a pas de clientèle. Et là, je trouve que c'est un danger aussi,
C'est un
hein,
bon point.
de se mettre dans des positions ben délicates, hein, d'accepter
Ouais.
peut-être comme des dossiers que normalement on serait peut-être moins à l'aise d'accepter, mais comme on commence à bâtir notre clientèle, on les accepte. Mais moi,
C'est un bon point.
j'ai décidé, je l'ai fait au début, là. Hein, j'ai accepté des dossiers, puis je me disais, OK, tu sais, je suis plus ou moins à l'aise, je vais lire sur la problématique, c'est correct. Là, au fil du temps, ben, on se rend compte, ben non, OK, moi, je veux aller dans cette voie-là, avec cette clientèle cible-là. En travail social, évidemment, c'est varié, là. On peut pas
Oui,
juste dire, tu sais, telle clientèle, mais au moins, aujourd'hui, moi, je suis capable de dire, OK, vers où je veux aller, quel type de clientèle je veux accompagner. Fait que ça, c'est important aussi parce que dans le cas, par exemple, ben là, je devance un petit peu, mais on va en parler de troubles alimentaires. Mais dans le cas d'un trouble alimentaire, principalement avec des adolescents ou même des enfants, ben ça peut être risqué.
Totalement.
D'accompagner, de faire un
Totalement.
suivi auprès de familles, d'enfants qui vivent un trouble alimentaire, ben là, on veut pas nuire.
Ben non, puis on peut nuire. On peut
Exact.
tout à fait nuire. Mais je trouve ça paradoxal parce que on va au privé pour offrir un service spécialisé qui nous parle. Puis effectivement, au début, c'est super challengeant. Puis là, justement, en entrepreneuriat, tu as tout le monde qui dit « Trouve ta niche, trouve ta niche. » Donc, reste dans ta spécialité. Mais toi, tes factures se payent pas pendant ce temps-là. Fait que tu sais, je comprends tout le dilemme aussi, puis je comprends les gens qui sont passés par là. Mais c'est super paradoxal parce que dans le réseau public, c'est ben non, toi, t'es à la chaise du GMF et au GMF, tu fais de tel âge à tel âge et tu vois toutes les problématiques. Puis oui, il peut y avoir des services de deuxième ligne quand c'est très spécialisé comme les troubles alimentaires, mais le reste, tu les prends tous puis tu fais ce que tu peux. C'est quand même assez paradoxal, je trouve.
Ah, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis pour l'avoir expérimenté, là, des fois, là, c'est comme tu te sens toute seule dans ton bureau. Puis là, ben les médecins, tu essaies d'avoir une certaine collaboration et tout ça, mais c'est pas toujours simple. Puis effectivement, on est comme un peu coincé dans le fait qu'on n'a pas les expertises dans tout.
Tout à fait. Puis là, c'est comme, ben, oui, mais tu sais, le service est gratuit, entre guillemets, parce que c'est un service public. Oui, je comprends, mais ça fait en sorte que moi, j'ai un autre professionnel qui me dit que, tu sais, si je me sens pas compétente, je les prends pas. Mais, OK, mais il y a comme une nuance entre les deux. Il y a comme une zone grise entre les deux que je me sens assez compétente, mais pas assez haute. Mais c'est ça. C'est comme, fait que oui. Fait que c'est moi aussi, c'est une des raisons qui fait que je suis maintenant à mon compte. Parce que je ne voulais que faire des choses dans lesquelles je me sentais spécialisée. Puis, ben, je veux accompagner le mieux possible avec cette clientèle-là. Mais je me suis joint à une équipe qui, justement, a d'autres spécialités pour ce but-là de dire je me sens pas mal à l'aise de dire non, je suis pas capable de le prendre, ce cas-là. Je vais le référer à ma collègue. Intéressant, ça. Très intéressant.
Oui, vraiment. Je trouve que ça enlève une pression aussi, hein, parce que
vraiment.
Tu sais que si tu te retrouves devant telle ou telle problématique, ben tu as déjà des personnes à qui référer. Fait que ça, c'est sécurisant.
Totalement. Totalement. Oui, vraiment. Puis, justement, tu sais, on en parlait un petit peu de, bon, les domaines dans lesquels toi, tu as développé ton expertise. On a parlé de troubles alimentaires, tu as parlé de pédopsychiatrie, qui étaient des choses intéressantes aussi. Je sais que dans la clientèle qui, parmi les auditrices, on a des mamans de jeunes filles, d'adolescentes qui soit ont développé un trouble alimentaire ou une relation plus difficile avec la nourriture. Comment tu les accompagnes, ces gens-là, finalement? C'est quoi la plus-value d'aller te consulter, toi, en travail social? C'est pas un réflexe que les gens vont avoir en premier, puis même en tant qu'autre professionnel, c'est pas un réflexe qu'on a nécessairement de référer. Fait que je serais curieuse de t'entendre là-dessus.
Oui, ben tu sais, en fait, je pense que moi, je suis comme la porte d'entrée aussi, hein, pour voir, ben, souvent avec les familles, c'est ça, hein, la porte d'entrée, c'est ben mon enfant, mon adolescente a des enjeux au niveau alimentaire, on voit des inquiétudes par rapport à tout ça, suspicion de troubles alimentaires. Donc là, moi, je peux évaluer la situation, faire le tour dans les différentes sphères de vie. De par mon bagage aussi, puis mon expérience en pédopsychiatrie, bien, ça me permet aussi de ratisser un peu dans toutes les sphères de vie. Puis, mais tu sais, je te dirais que c'est des dossiers qui sont difficilement travaillables. Là, je ne sais même pas
si ouais, mais oui, je vois où tu t'en vas.
Mais
on se comprend.
C'est des dossiers complexes. Donc, quand on est dans, par exemple, des enjeux d'image corporelle ou, tu sais, une jeune qui commence à, par exemple, à refuser de manger certains aliments ou jeter la boîte à lunch ou, tu sais, se regarder dans le miroir, tu sais, il y a comme quand même des drapeaux rouges, mais on n'a pas de signe nécessairement de troubles alimentaires. À ce moment-là, moi, je peux faire un bout de chemin pour travailler, par exemple, l'estime de soi. Parfois aussi, ben c'est le symptôme de quelque chose. Fait que c'est de voir aussi à la maison comment ça se passe, les relations familiales, tu sais, comment ça se passe avec maman, papa. Est-ce qu'il y a, par exemple, de la chicane dans le couple? Est-ce que c'est une famille séparée? Est-ce que, tu sais, il y a tellement d'enjeux qui peuvent contribuer à ces symptômes-là. Donc, d'emblée, moi, mon travail, c'est de faire le tour puis d'évaluer tout ça. C'est sûr que si je me rends compte que la situation est plus problématique, tu sais, qu'on va vraiment un peu plus vers un trouble alimentaire, bien, la porte d'entrée, c'est vraiment le médecin de famille.
Mm-hmm.
Maintenant, je te dirais, dans le réseau, puis tu as travaillé longtemps aussi dans le réseau, tu sais que c'est une grosse machine, hein? C'est complexe. Tu sais, je cacherai pas à tes auditeurs que c'est sûr que c'est quand même assez complexe comme processus, mais la porte d'entrée, c'est vraiment le médecin de famille.
Quand on en a un. Ça, c'est l'autre dossier.
Ouais, effectivement, c'est un gros défi. Sinon, ben c'est d'aller à l'urgence consulter, malheureusement. C'est plate d'engorger les urgences pour des situations qui pourraient être traitées différemment, mais il faut vraiment qu'un médecin fasse la référence. Donc ça, c'est la première étape, d'aller faire évaluer par un médecin, parce que c'est sûr qu'il y a tous les paramètres vitaux.
Biochimiques,
ben oui. Ben oui, tu sais, le poids, c'est sûr qu'il faut aller valider tous ces paramètres-là. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Par la suite, ben, le médecin va juger si il y a une référence en pédopsychiatrie qui doit être
ouais, tout à fait.
Et là, à ce moment-là, la référence part du médecin, ça s'en va au guichet d'accès jeunesse. C'est ça, c'est compliqué, hein? Fait que, guichet d'accès jeunesse, donc là, la personne du guichet va appeler les parents pour faire une première collecte de données, analyser la situation. Par la suite, ben, ils vont décider si c'est envoyé en pédopsie ou pas. Donc, c'est pas d'emblée envoyé en pédopsychiatrie. T'sais, il y a comme une autre étape aussi. Il faut que ce soit évalué au niveau du guichet d'accès. Donc là, la demande est acceptée, ça va en pédopsychiatrie. Mais là, une travailleuse sociale doit faire l'évaluation du fonctionnement social. Il y a plein de paperasses à compléter. Tu sais, différents formulaires, on doit avoir beaucoup d'observations. Donc, c'est une démarche qui est quand même assez longue. Sauf si, par exemple, les parents se rendent à l'urgence et là, l'état de santé de l'enfant ou de l'adolescent, tu comprends, là. À ce moment-là.
Non, là, c'est oui, on hospitalise, puis oui.
Exactement.
On n'y est pas avec le POC, comme on dit. Oui.
Exactement. Donc là, je te parle du processus qui est plus long, mais ça peut être aussi plus court parce que si l'état s'est détérioré, il y a un risque pour la santé, mais à ce moment-là, il y a comme une traque qui est un petit peu plus rapide.
Oui.
Donc, ça, c'est le processus pour entrer en pédopsychiatrie. Par rapport à moi, ce que je peux faire, ben effectivement, c'est l'accompagnement. Le travailleur social va aussi avoir tout le rôle du pivot.
Oui, c'est un bon point.
Donc, le travailleur social va s'assurer que tout est arrimé, tu sais, les services. Tu sais, moi, je vais parler, par exemple, à l'intervenante du guichet, à l'infirmière de liaison en pédo, la famille et tout ça. Donc, je suis vraiment pivot dans des situations comme celle-là.
Même au privé, c'est bon que tu le spécifies?
Bien, moi, je le fais.
Puis, j'aurais pas pensé.
Oui, bien, je l'ai eu dernièrement, j'ai eu un dossier, justement, de troubles alimentaires, et c'est sûr que, moi, j'ai travaillé déjà en pédopsie.
Oui, c'est ça, c'est comment ça marche.
Je connais le fonctionnement, donc, tu sais, j'ai été en lien avec l'équipe, tu sais, ils ont accepté, parce que la famille voulait absolument qu'on continue avec moi pour pas changer d'intervenant.
Ben oui, ben oui.
Donc, tu sais, j'ai fait ce rôle-là au sein de la famille, puis j'ai placé différentes interventions, là, pour calmer un peu la situation, là. Mais c'est un peu mon mandat, là, dans ces situations.
Ah, c'est bon à savoir. Puis, est-ce que tu fais des consultations virtuelles? Parce que là, tu es à Lévis, je crois, fait que les gens qui nous écoutent sont partout au Québec.
Oui! Ben oui, moi, je fais du virtuel, du présentiel, oui, sans problème.
Parfait, c'est bon à savoir. Good. Puis si on passe plus du côté adulte, qui est moi et ma clientèle plus principale, j'ai beaucoup, j'ai quelques troubles alimentaires, mais on sait qu'au Québec, le pourcentage est plus faible comparativement aux relations troublées avec la nourriture, parce que c'est un beau continuum, tout ça, qui ça est une grande majorité. C'est la majorité de ma clientèle aussi. Ce que j'observe souvent, qui nécessite, qui sort de mon champ de compétences, avec lequel on va surfer, mais qui nécessite un petit peu plus de spécialité. Ça va être tout ce qui est justement, oui, ce qui aborde l'image corporelle, mais aussi l'estime de soi. Parce que quand on parle de poids, c'est sûr que tout ça est très relié. C'est relié directement avec l'alimentation, mais c'est relié directement aussi avec tous les facteurs psychologiques. Puis on observe souvent une corrélation forte avec une insatisfaction corporelle, évidemment, mais parfois aussi avec de l'estime de soi qui est un petit peu plus difficile. Et aussi, j'irais avec la gestion des émotions, on va observer beaucoup, beaucoup, soit de gestion des émotions via la nourriture ou juste ne plus ressentir les émotions. Du tout, du tout, du tout. Les manger, mais sans savoir qu'on les mange. Puis je suis pas en train de dire que c'est mauvais de manger ses émotions, pas du tout. Mais quand on camoufle l'émotion sans le savoir avec la nourriture, ça, c'est des gros challenges qu'on travaille ensemble avec ma clientèle, mais qui nécessitent souvent un support à côté. J'aimerais t'entendre là-dessus.
Ben écoute, il y a plusieurs choses qui ont popé dans ma tête. En fait, tout ce que tu as nommé, c'est vraiment, tout est relié à hein, gestion des émotions, estime de soi, image corporelle. Tout ça, là, c'est comme tout mélangé. Fait que c'est sûr que parfois, on essaie d'évaluer tout ça puis de se dire, ben qu'est-ce qui cause quoi, puis par où on commence. Puis effectivement, parfois de le travailler en équipe, hein, quand on est plusieurs professionnels à travailler différentes choses, c'est vraiment une plus-value, là,
pour vrai. Ben oui.
Une autre chose qui m'est venue en tête, c'est une approche que j'utilise beaucoup, l'approche de pleine conscience.
Je voulais t'en parler tantôt. Je l'avais vu sur ton site puis sur tes réseaux sociaux, puis je m'étais dit, ça, c'est sûr qu'il faut qu'on en parle. Fait que oui, je t'écoute.
Écoute, moi, ça a changé ma vie. Puis quand on parle de pleine conscience, on parle pas uniquement de méditation.
Oui, parce que là, oui, ça, c'est bien important. Mais en fait, c'est qu'on le fait beaucoup en nutrition quand on expérimente un petit peu plus l'alimentation intuitive dans les concepts de essayer de manger. Tu sais, je dis souvent, c'est bien beau de manger lentement, mais si tu manges lentement en étant dans ta tête en train de penser à toute ta journée puis tout planifier ou en... T'sais, même pas en écoutant la télé nécessairement, mais juste en n'étant pas toute là dans ta tête, ça va être difficile de capter tes signaux, ça va être difficile d'être satisfait. Surtout si c'est des aliments que, justement, tu as beaucoup de difficultés à arrêter de manger parce qu'ils ont une connotation très issue de la culture des diètes qu'on déconstruit ensemble, mais la pleine conscience, elle a vraiment, vraiment sa place.
Tellement, parce que quand on n'est pas dans la pleine conscience, quand on est plus dans le pilote automatique, ben on va faire les choses une après l'autre, sans nécessairement se poser de questions, sans nécessairement ressentir ce qu'on vit.
Donc, on est bon là-dedans.
Tellement, mon Dieu. Moi, il y a plein d'affaires qui me viennent en tête là, quand on parle de pilote automatique. Mm-hmm. On l'a tous été.
Oui.
Il y a toutes des choses qu'on fait, puis on se dit, oh my God, tu sais, là, je ne suis pas du tout dans ma pleine conscience, là. Mais ça, ça a une grande incidence parce que quand on est sur le pilote automatique, on n'est pas connecté à nos sensations. On n'est pas connecté à nos émotions. On est comme... C'est comme notre enveloppe, là. Tu sais, notre enveloppe corporelle. Mais c'est une tête. On est une tête. On va le dire comme ça. On n'est pas connecté à tout ça.
Donc, j'aime que tu dises connecté parce que souvent, le mot que je veux... L'image que je veux utiliser, c'est de dire... Souvent, je reviens à la clientèle que j'ai qui sort de la culture des diètes généralement, c'est une déconnexion qui s'est créée très forte entre la tête puis le corps. Puis ce que je leur dis, c'est que là, justement, ce qu'on va tenter de faire, c'est de recréer cette connexion-là pour aller ressentir. Tu parles des signaux corporels au niveau des émotions. C'est la même chose quand on va parler des signaux corporels de faim, d'envie de manger, de rassasiement, de satisfaction à manger certains types d'aliments. Ça fait plein de sens, là.
Ben, définitivement, parce que ça, c'est plus ta tasse de thé, mais tu sais, tout ce qui est de recommencer à manger certains aliments ou des quantités, à être mangé en pleine conscience, ben il faut reconnaître nos signaux de faim, nos signaux de satiété, mais quand on n'est pas connecté à soi, on peut c'est pas difficile. Y arriver, c'est difficile. Difficile. Donc, moi, j'ai une approche qui est vraiment dans la pleine conscience. Donc, je vais faire j'ai plein d'outils que j'utilise pour ramener vraiment la personne à se connecter à tous ses sens. à se reconnecter à son corps, à ressentir son environnement. Donc ça, moi, c'est une approche que j'utilise beaucoup. J'utilise la méditation également, mais un ne va pas avec l'autre nécessairement. On peut utiliser l'approche de la pleine conscience sans que je fasse des enseignements de méditation parce que, tu sais, c'est pas, il n'y a pas
Tout
tout
le
le monde.
monde qui. Ouais. Mais c'est bon que tu le précises parce qu'il y a beaucoup de. C'est beaucoup associé des fois à, tu sais, les esprits très rationnels que je vais rencontrer, puis c'est les meilleurs pour avoir été dans la structure, le plan. Tu sais, j'en ai beaucoup là qui sont extrêmement motivés et bonnes à appliquer à la lettre des recommandations, des plans, des choses comme ça. Puis ces gens-là vont souvent dire. Hey, là, c'est comme c'est un peu trop ésotérique pour moi, j'embarque pas, là, la méditation, ça fonctionne pas pour moi, j'ai pas cette personnalité-là. Ce que je peux comprendre, parce que j'ai une personnalité qui va vite, vite, vite dans sa tête aussi, j'adore la pleine conscience, puis bon, j'en fais pas assez, clairement. La méditation, j'ai essayé, ça me parle moins parce que ma personnalité est comme ça, mais je sais que ça aide énormément de gens, mais je sais que ça en effraie beaucoup aussi, fait que je trouve ça le fun que tu fasses la distinction entre les deux. On peut tous trouver notre façon de, puis c'est pas nécessairement obligé que pour être en pleine conscience, je m'assois à terre, je ferme les yeux, puis je fais des, tu sais, c'est pas ça, c'est accessible vraiment facilement à tous, fait que je trouve ça intéressant que tu l'abordes.
Ben tout à fait. Puis moi, dans, tu sais, j'en ai aussi là des clients qui sont très rationnels dans leur tête. Fait que c'est sûr que je leur parlerai pas. Viens, je vais t'apprendre à méditer. Tu sais, c'est sûr qu'ils vont repartir à la course puis ils vont me dire, hey, Bouddha, ça va être correct là.
Malgré que, tu sais, je veux dire, puis je suis comme ça, là. Genre, je suis trop rationnelle pour que ça marche, mais je sais qu'il y a de la science à côté derrière la méditation. Il y a des bienfaits qui ne sont pas pris dans la poche arrière. Il y a vraiment les études scientifiques qui se penchent sur la question. Il y a énormément de bienfaits. Donc, c'est pas. Je veux pas enlever le côté scientifique de la chose. Il y en a un. C'est vraiment, vraiment ça. Après ça, je pense qu'effectivement, c'est une question de personnalité. Peut-être d'ouverture d'esprit. Suis-je fermée? Je pense pas, mais je pense que je suis pas rendue
Ben,
là.
écoute, Sarah, moi, dans le fond, tu sais, je commence avec des personnes qui sont un peu plus réticentes. Ben, je commence tranquillement. Je commence à les ramener justement dans l'approche de pleine conscience, à se reconnecter un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Tu sais, je sème des graines. Moi, je sème des graines beaucoup.
C'est bon.
Puis j'observe. Moi, j'observe mon client. La personne qui est devant moi, là, je l'observe. Je vois les signes. Est-ce que la personne est comme a peur, son non-verbal et tout ça. Fait que moi, je respecte le rythme des gens aussi. Puis je le
C'est
fais.
important.
Des fois, je leur dis, hey, ça te tente-tu? Ça te tente-tu qu'on essaye? On peut prendre un petit 5 minutes, on va méditer ensemble, on va faire une technique de respiration ensemble. Je vais te montrer, on va le faire ensemble. Puis dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi comment tu t'es senti. Puis pourquoi tu t'es senti comme ça? De comprendre qu'est-ce qui fait que ça accroche. Oui, mais là, mes pensées, là, oh, j'ai trop de pensées, je ne suis pas capable, moi, d'arrêter de penser. Oui, mais tu n'arrêteras jamais de penser.
Non, c'est ça, c'est pas ça le
Même
but,
si tu médites, tu vas toujours avoir des pensées. L'objectif, c'est d'apprendre à diminuer la quantité de pensées. Fait qu'on pourra peut-être en reparler dans un autre temps, mais
c'est
effectivement que
bon.
la pleine conscience, dans toute sa globalité, dans toute la définition, de la pleine conscience, ça, moi, je l'applique à peu près dans tous mes dossiers. Dans toutes les situations, autant avec les enfants, avec
Ouais.
les familles, avec les couples. J'offre des ateliers aussi de méditation, mais je travaille beaucoup en pleine conscience aussi.
Ouais. Ah, c'est bon.
Donc, ce que tu apportais comme point tantôt, ben, dans la gestion des émotions, dans la reconnexion à son corps, la reconnexion de la tête et du cœur, mais là, pour moi, la pleine conscience, c'est comme, ben,
C'est ça.
moi, je suis vendue.
Mais il faut passer par là dans le sens que, tu sais, si tu veux parler d'être connecté à tes signaux corporels de base qui te disent quand manger ce que tu as envie de manger, puis qui te disent OK, c'est pas un signal qui fait comme OK, je ferme le couvercle, c'est assez, je suis rassasiée. c'est non, c'est subtil, c'est les aliments commencent à goûter moins bon. OK, mais si je suis pas en pleine conscience puis que j'ai pas mon attention dans ma bouche, oublie ça, je la ressentirai pas. C'est comme un passage obligé si on veut ressentir nos signaux. Puis quand on va parler de comprendre comment le corps fonctionne par rapport au poids et tout ça, on passe par la gestion des signaux. Je suis pas en train de dire que ça fait perdre du poids d'écouter sa faim et puis sa satiété. C'est pas ça que je veux dire pas tout. On fait une belle parenthèse ici. Mais quand on comprend comment notre corps fonctionne dans... juste pour le volet alimentation au niveau du poids, parce qu'il y a 1 million d'autres facteurs qui influencent le poids, mais on passe nécessairement par là, on n'a pas le choix. C'est, on est un corps, on ressent des choses. Si on n'est pas là à l'écouter, ben c'est sûr qu'il y a un problème, là. Puis les émotions, mais c'est souvent ça qu'on va remarquer aussi. Puis moi, la première, pour coordonner ça aussi, pas nécessairement, mais j'ai fait un travail beaucoup là-dessus parce que moi, j'ai appris à mes émotions, je les gère. Je suis une femme rationnelle, je suis une femme forte, je suis un lion dans la vie, ça fonce. Ça braille pas parce que ça a trop froid puis ça l'a appris à être faite forte. Mais c'est un challenge, ça aussi, d'accepter l'émotion puis de la vivre puis arrêter de la refouler puis de faire comme « Non, non, retiens tes larmes, là, ça n'a pas rapport que tu pleures pour ça. » Non, non, faut que ça sorte parce que sinon, ben c'est comme ça qu'on peut peut-être se créer une espèce de... À force de le faire, on se déconnecte tellement qu'on ne le sait même plus qu'on vit une émotion. Et là, des fois, le seul outil qu'on a pour gérer l'émotion, c'est la nourriture. Puis quand ça arrive, ben c'est là que ça crée des gros problèmes dans le sens où on ne sait plus par où le prendre. On dit, ben OK, je vais rajouter des outils dans mon coffre à outils. Ça, je vais le travailler avec ma clientèle. Mais le ressentir l'émotion, t'as peu, là, ça, on touche à quelque chose de ça peut être sensible, là, ça, et ça, faut qu'il y ait un accompagnement à côté, et puis ça, c'est, on peut rouvrir une belle boîte de Pandore, puis on veut pas peser sur le mauvais bouton non plus, là, j'en parlais encore cette semaine, là, en consultation, tu sais, ça prend un professionnel qui peut bien accompagner, là.
Clairement, oh oui. Puis moi, je suis vendue approche multi. Puis des fois, c'est ce que je trouve. Tellement! L'effort privé, là.
Oui, oui.
Puis quand je travaillais en pédopsie, ben on travaillait en multidisciplinarité. Oui, tout le temps. Mais tout le temps. Tous les dossiers étaient traités en équipe. Je te donne l'exemple. Troubles alimentaires pour des jeunes. Ben moi, j'étais le pivot. Moi, je rencontrais les parents. Je les coachais. On mettait des interventions en place. Le psychologue... débuter une thérapie avec le ou la jeune. L'infirmière de liaison était là hein, pour la prise de poids, prendre les paramètres à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Donc, de travailler en équipe, ben c'est sûr que c'est une plus-value. Je te dis pas que toutes les situations nécessitent qu'on soit en équipe, mais dans des situations qui sont un petit peu plus complexes, c'est sûr que ça amène une vision plus globale.
Ouais.
Avoir toi ta vision de nutritionniste, moi ma vision de TS. Et là, on échange nos hypothèses, nos points de vue. Puis l'amalgame de tout ça, ben ça amène des belles pistes d'intervention. Donc, c'est très, très complémentaire.
J'aime ça. Puis, justement, c'est par rapport à la gestion des émotions. C'est-tu... Comment vous travaillez ça ou comment toi tu travailles ça avec la personne? Parce que j'imagine que c'est pas nécessairement quelque chose que tu as besoin de faire une thérapie pour, mais justement quelqu'un qui, on se rend compte que c'est un blocage de dire on travaille à mettre d'autres outils dans la boîte à outils pour gérer l'émotion, mais on se rend compte que finalement la personne, elle ne ressent même pas l'émotion puis elle n'a même pas conscience que c'est cette émotion-là qui est en train de refouler avec la nourriture. C'est-tu quelque chose que tu peux travailler?
Oui, parce que à la base, ben il faut être capable de les reconnaître, nos émotions, avant de les réguler, là, faut les reconnaître.
Mm-hmm.
Donc c'est dans l'exploration, c'est justement d'être dans la pleine conscience. Puis moi, je fais beaucoup de, moi j'aime beaucoup proposer l'écriture à mes clients. Ça, je trouve que c'est un bel outil pour justement voir, ben quelle situation t'ont challengé? Qu'est-ce qui a fait que tu as vécu des émotions un petit peu plus intenses? C'était quoi l'émotion? Est-ce que c'était de la colère? Est-ce que c'était de la déception, de la tristesse? Souvent les gens, ils vont tout mélanger ça. T'sais, ils vivent quelque chose, là, une espèce de boule en dedans ou de volcan. Puis là, ils ont l'impression qu'ils sont en beau maudit. Mais dans le fond, c'est pas ça la vraie émotion, tu sais, c'est de la tristesse ou de la déception ou autre émotion. Fait que moi, je travaille beaucoup en exploration puis pour que la personne puisse être capable de reconnaître les différentes émotions Puis ça part aussi par les sensations, d'être vraiment à l'écoute de nos sensations. Puis après ça, ça va de soi. Après ça, du moment où la personne est capable de les reconnaître, de mettre des mots sur ses sensations, sur les émotions qu'elle ressent, bien, par la suite, là, on travaille. OK, mais là, comment tu peux les gérer, ces
Ouais.
émotions-là?
C'est bon, j'avais vu justement, je sais pas si c'est son vrai nom, mais la roue des émotions, là, des fois, qui est un outil qui était utilisé. Puis justement, ce que ça disait, je sais plus où j'ai vu ça, là, mais ça disait justement que les gens avaient de la misère à, comme tu disais, mettre le mot sur l'émotion. Ils savaient que c'était comme dans la gamme de l'émotion, frustration, colère, mais c'était-tu vraiment ça? Puis après ça, d'aller aider à cibler. C'est vrai qu'on n'est pas tant habitué à faire ça parce que c'était pas à la mode dans notre façon d'être éduqué. Tu sais, je me rappelle, là, tu sais, si t'étais en colère, hey, arrête d'être choqué, t'es choqué pour rien, tu sais, tu capotes ou des choses comme ça, ou on était triste, arrête de pleurer, là, t'exagères. Mais ça fait que ça enregistre que, ben, premièrement, je suis pas capable de nommer mon émotion, je suis pas capable de comprendre ce que c'est. Puis en plus, on me dit que ben, je devrais la refouler parce qu'elle n'aurait pas lieu d'être. Mais tu sais, une émotion, si elle est là, c'est parce qu'elle a un message à nous donner. Fait que je trouve ça intéressant. Là, je dis ça comme si je savais quoi, là. Mais non, je m'intéresse un petit peu plus aux psychoéducatrices et leur travail parce que je suis nouvellement belle-mère et j'ai beaucoup à apprendre sur les émotions chez les enfants. Mais ça me fait réfléchir sur moi comme « OK! » C'est pour ça que je suis comme ça, puis que j'ai de la difficulté avec telle chose, puis je pouvais le travailler de telle façon. Mais je trouve tellement que c'est fascinant, puis qu'il y a un gros shift dans la façon d'éduquer aussi par rapport aux émotions. Là, je t'ai
Oh
fait
mon
un virage à
Dieu.
90, je m'excuse.
Écoute, moi je prends la balle au bon là parce que c'est tellement quelque chose d'important. Puis ce que tu dis, ben c'est sûr que c'est générationnel aussi, hein. Je sais pas, t'as
Mais
quel âge,
oui!
on dira peut-être pas nos âges.
Ça,
Bon,
moi, ça ne me dérange pas. Écoute, je vais avoir 33. Ben, au moment de l'écoute du podcast, j'ai 33 ans, on va dire ça comme ça. Quand les gens vont m'écouter, je vais avoir 33.
ben
Mes
moi
années 90.
j'ai juste une petite dizaine de plus.
Ça paraît
Quand
pas.
même.
C'est parfait.
T'es fine. Mais c'est générationnel. C'est
Oui.
sûr que dans. Tu sais,
Oui.
prends les parents d'aujourd'hui et prends les parents, puis ça n'a rien à voir, là. Mes parents, maman, papa, je vous aime. Je sais qu'ils vont écouter
Idem, mais tellement idem, mais oui, mon Dieu, c'est pas ça, c'est générationnel, puis il faut le répéter souvent parce que dans la culture des diètes, on aborde souvent comment c'était dans la famille, comment ta mère percevait l'alimentation, est-ce qu'elle mangeait comme toi, est-ce qu'elle se commentait dans le miroir, est-ce qu'elle faisait des diètes, des régimes, puis c'est tout le temps, oui, mais tu sais, elle faisait pas ça. Non, non, c'est correct, c'était comme ça, tout le monde était comme ça, puis c'est pas ciblé sur la personne, c'est à ce moment-là, c'est ça les informations qu'on avait, puis c'est ça qu'on transmettait, puis c'est bien correct, là. Comme nous, au début de notre pratique, on transmettait des informations qu'aujourd'hui, on est comme « Ih! On était dans le champ, mais on ne le savait pas », tu sais, c'est ça.
Exact, exact. Fait que c'est la même chose, hein. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, ben, c'était ça, hein. Tu vis une bonne colère. T'sais, on se fait comme claquer un peu la porte au nez. T'sais, faut comme se calmer, s'auto-réguler. Même si tu as comme 6-7 ans, ben, faut gère-toi, là, t'sais.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Mais t'sais, aujourd'hui, c'est un peu différent, t'sais, où c'est peut-être pour certaines personnes, c'est un défi, t'sais, d'accompagner les enfants dans la gestion, la régulation des émotions. Mais ça, j'en ai énormément en suivi. Des
C'est
jeunes,
sûr.
là, écoute, je te dis, là, des ados, des
C'est
jeunes,
sûr.
gestion des émotions, je pense
Oui,
que ça
mais.
doit être la moitié de mes dossiers, là.
Mais tu sais, si moi, comme adulte, j'ai de la misère à réguler mes émotions, si moi, comme adulte, je ne ressens même pas ou je suis pas capable de nommer l'émotion parce puis je la régule pas, comment je peux aider mon enfant à la réguler? Je veux dire, c'est tout à fait logique, là. C'est attendu, là, si on veut. Fait que de là aussi l'importance de ben, je dis se traiter, mais d'aller chercher un accompagnement pour nous-mêmes avant, pour nous-mêmes faire le chemin pour pouvoir accompagner nos enfants après, finalement, ou aller chercher de l'aide aussi pour les enfants. Mais je veux dire, ça va ensemble, là, c'est logique, là.
Bien, clairement, puis moi, quand je travaille avec les parents, parce que souvent, ce n'est pas tous les parents, mais il y a des parents qui vont vouloir qu'on répare leur enfant. Tu sais,
Oh
c'est
my
comme,
God,
ben,
ouais, OK.
hey, mon ado fait des crises, elle n'est pas du monde, là, tu sais, gère-la, là, répare-la, puis tu me la redonneras après, tu
Oui,
sais.
un même personnage.
Ben, moi, j'affiche mes couleurs assez rapidement. sais, la première rencontre, c'est comme, OK, vous venez uniquement les parents, sans la jeune, on fait le tour sans la ou le jeune, on fait le tour de la situation, puis moi, je leur dis, là, ben vous allez faire, vous faites partie de la solution,
parce
que
oui.
moi, je vais voir votre enfant une heure par semaine ou deux semaines, mais le gros du travail, c'est vous qui devez le faire. Puis ça se peut, puis moi, là, je le nomme devant tout le monde. T'es là, mais moi, là, je veux pas que l'enfant se sente comme étant responsable.
Non! Ah, pareil pour les troubles alimentaires. Ah, tellement! Ben oui! Ben oui!
Fait que toi, t'as besoin, tu sais, moi, je le nomme à l'enfant, là, OK, toi, tu viens travailler avec moi, parce que souvent, l'enfant va se sentir comme si c'était lui le problème.
Exactement.
Puis moi, là, je casse ça tout de suite. Puis je le dis bon. Devant l'enfant, devant les parents, écoute, vous êtes tout le monde ici, on va travailler tout le monde ensemble, papa et maman aussi vont avoir des choses à changer, et toi, ben, tu vas avoir plein d'outils dans ton coffre à outils. Fait que c'est un travail d'équipe, tu sais. Puis c'est certain, là, moi, je questionne, là, OK, quand votre enfant a eu tel comportement, comment vous avez réagi? Ah, mais là, puis là, c'est sûr que ça nous donne une idée, parce que des fois, il y a un des parents, ah, oh, je le sais, là, j'ai peut-être trop réagi. OK, comment vous réagissez quand votre enfant vit des émotions, de la colère et tout ça? Bien, il y a des parents qui n'ont pas de tolérance à cette détresse-là ou à cette intensité-là. Donc là, moi, je travaille avec les parents. Ben écoute, on va essayer telle chose, on va modifier telle approche parce que tes réactions à toi ont un impact sur ton enfant.
Mm-hmm.
Fait que tout est lié. Fait que moi, je leur dis tout de suite, moi, j'ai pas de baguette magique puis je répare pas les enfants, là. Moi, je non. répare pas personne. Fait que si t'acceptes de venir en suivi avec moi, ben les parents et l'enfant, tout le monde va
tout
mettre...
Tout le travail. Ouais.
Exactement. Exact.
Ouais, c'est bon. Mais c'est la même chose avec l'alimentation chez les jeunes. Bon, je suis pas... Il y a comme un gros mouvement où c'est problématique, là, qu'il y a beaucoup de pédiatres puis de médecins de famille qui vont envoyer les enfants parce qu'ils seraient, bon, ils seraient trop gros selon leur charte et compagnie. Puis, ben ça va être, bon, on va t'envoyer chez la nutritionniste, puis... Ben c'est dans le fond, c'est comme si c'était l'enfant le problème, on lui expose son poids, on lui expose le fait qu'il serait au-dessus de sa courbe. Fait que déjà là, c'est très problématique, là, on s'entend, parce que c'est pas aux jeunes nécessairement à gérer c'est quoi l'offre alimentaire, c'est quoi l'environnement alimentaire, c'est pas dans son rôle, c'est pas dans ses responsabilités. Sa seule responsabilité, c'est la quantité qu'il mange. Puis ça, ben il faut qu'il l'ait appris à reconnaître ses signaux. Puis encore là, si les parents ne le savent pas, puis enseignent encore, finis ton assiette, si tu veux du dessert, parce que eux autres aussi ont appris, parce que c'était générationnel, bien, on n'apprend pas à l'enfant à le faire. Mais souvent, on voit ces phénomènes-là, que c'est l'enfant qui se fait mettre ça sur les épaules, puis là, le parent dit, bien, on va aller voir la nutritionniste pour que toi, tu fasses des changements, pour que... Non, non, c'est le même principe, j'en fais pas. Mais je sais que mes collègues, mais ils parlent aux parents avant, là. Puis on règle des choses avant. Puis on ne met jamais la responsabilité sur le dos de l'enfant. Jamais, 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 jamais. On part, mon Dieu, c'est tellement dommage si on parle de poids si jeune. Mais c'est un problème, puis c'est vraiment un réel problème parce qu'il y en a de plus en plus, là. J'entends des histoires assez d'horreur, là, dans le bureau du médecin ou du pédiatre qu'on le dit pas juste aux parents, on le dit devant l'enfant, là. Puis les enfants, il y a des jeunes ados qui vont dire à leurs parents... Je veux plus y aller dans le bureau du médecin, ça me fait de la peine que j'y vais à cause des propos que j'entends. C'est tabarouette, ça commence beaucoup trop jeune, là. C'est triste.
Hey, tellement. Puis moi, j'ai travaillé dans une équipe multidisciplinaire en pédiatrie. Puis c'est délicat quand même de recadrer ça avec les pédiatres, mais tu sais, ça avait dû être fait. Puis c'est pas mal intentionné, mais
c'est jamais mal intentionné, jamais.
Tu sais, le pédiatre est comme centré sur ben tous ses paramètres physiques, puis tu sais, c'est comme ça, le poids, OK, il est en surpoids, mais tu sais, l'espèce de, je vais le dire comme ça, délicatesse, mais c'est ça, tu sais, c'est pas mal intentionné, mais en même non, temps, le message que l'enfant reçoit, c'est lourd.
C'est moi le problème. C'est ça que l'enfant reçoit comme message, c'est moi le problème, puis la responsabilité me revient de gérer le problème. Des petites épaules frêles de 9, 10, 11 ans, ça n'a pas d'allure, là, t'sais. Puis là, on part... Il y en a beaucoup, là, des témoignages que j'ai eus dans le podcast qui m'ont dit « Mon trouble alimentaire a commencé dans le bureau d'un professionnel comme ça qui n'avait pas cette conscience-là, t'sais, puis que ça a juste... » Juste ça, juste me faire dire que j'étais en haut de l'IMC ou en haut de ma charte, boum, ça a parti comme ça, t'sais. Fait que oui, on a une responsabilité là-dessus qui est importante, qu'on parle de sujets aussi sensibles, là, finalement. Mm. Oui. Mais un peu dans cette vibe-là, je voulais te demander, parce que c'est un commentaire qui revient souvent, puis on travaille souvent avec la clientèle, les commentaires des proches sur le poids puis l'alimentation. Comment tu gères ça, toi, avec la famille, avec l'entourage, parce que c'est des éléments qui reviennent souvent, là. Justement, si la mère est encore ultra baignée dans la culture des diètes, des régimes, puis que la fille, même si elle est à l'âge adulte, elle reçoit des commentaires sur son apparence physique, elle reçoit des commentaires sur son poids, du genre « tu devrais pas manger ça, tu devrais bouger plus », puis des commentaires qui se veulent bien intentionnés, mais qui font beaucoup de dommages. Des fois, c'est challengeant pour la personne qu'on accompagne parce que si c'est exemple un parent, c'est beaucoup plus difficile de mettre ses limites avec un parent qu'avec un ami ou quelqu'un qui est un petit peu plus externe ou qu'on va voir moins souvent. Comment tu gères ça, toi?
Bien, c'est sûr que quand j'ai accès aux parents, bien, je fais beaucoup de prévention puis je fais ces interventions-là auprès des proches. Ça, c'est certain. Mais pour moi, c'est tolérance zéro, puis j'ai comme l'impression que si je te posais la question, ce serait la même réponse.
Eh oui!
Et malheureusement, il y a un bout qu'on ne peut pas contrôler nécessairement. Et quand c'est dans l'environnement, mais que nous, en tant que professionnels, on n'a pas accès, bien, c'est d'outiller aussi la jeune à, tout dépendant de l'âge aussi, mais d'être capable de s'exprimer, puis de mettre des limites, puis de mettre une émotion sur, bien, moi, je me sens comme ça quand tu me fais des commentaires. Fait que moi, mon travail, c'est beaucoup d'outiller le ou la jeune là, pour être capable de s'exprimer.
Puis ça peut être dur, ça, parce que j'en ai beaucoup, même dans la vingtaine, la trentaine, peut-être plus de vingtaine, où ça va être très difficile de faire face à un parent qui peut être très forte personnalité, puis qui est très, 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 très grossophobe, très dans la culture des diètes parce qu'il y a plein de raisons que la personne, justement, n'a jamais travaillé. C'est difficile déjà pour ces femmes-là qui ont de la difficulté à dire non à la base parce qu'elles ne se font pas assez confiance, parce que leur estime, justement, a été très barouettée. Ça peut être un énorme défi. Des fois, juste de le dire comme ça, c'est comme non, je suis pas prête, puis je sais pas si je vais être prête un jour. J'imagine que c'est ce genre de choses que, justement, en travaillant avec la personne, son affirmation, son estime d'elle-même et tout ça, ça peut arriver éventuellement à aider dans cet accompagnement-là. Là.
Ah, définitivement, hein? C'est de travailler vraiment l'estime de soi, l'affirmation. Puis souvent, moi, je commence par leur dire, ben écoute, on va y aller avec quelque chose qui est un petit peu moins menaçant. Fait qu'on expérimente, on fait des tests. Comment tu pourrais t'affirmer? On commence avec des personnes de confiance où on se sent vraiment en sécurité. Puis là, ben, je leur dis, OK, expérimente. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne-là? Quelle limite tu aimerais établir? Alors, on le travaille. Donc, on le travaille de cette façon-là pour préparer la personne à aller au front. Aller vraiment devant son parent, par exemple, là, qui a une forte personnalité puis qui fait des commentaires là, à cet effet-là. Donc, c'est vraiment un travail. Tu sais, quand je te disais tantôt en pleure d'oignon, là, ben,
c'est pas ça, hein? C'est bon.
Fait que, tu sais, quand on enlève des pleurs, puis là, on se rend compte qu'il y en a encore. Oups, il y en a encore. Fait que c'est tout déconstruire ça tranquillement puis d'essayer d'avoir une compréhension globale aussi de la situation, ben ça permet aussi de dire « OK, j'avais pas vu ça de cette façon-là au départ, mais là, comment on pourrait travailler cet objectif-là dans le but de travailler notre autre objectif? » Donc, c'est vraiment de l'analyse. Moi, je suis continuellement en train d'analyser. Puis là, moi, ça, j'adore ça, là, tout le... Oui, l'analyse, essayer de comprendre, cibler les besoins de la personne, de quelle façon je peux contribuer dans leur vie, puis les amener à s'élever aussi en pleine conscience et en pleine confiance.
Oui, j'aime ça aussi, mais c'est un point qui revient souvent, puis que des fois, on se dit, ben la personne, elle veut-tu vraiment aller consulter pour ça en psychologie, ou il y a déjà un suivi, une thérapie qui est en cours, mais... Tu sais, si la parent a une forte personnalité, on s'entend que c'est pas juste l'image corporelle puis le poids qui est discuté, là. Il y a comme tellement d'autres éléments. Ça sera pas nécessairement la même chose, puis j'ai l'impression que ça peut décourager parce que c'est plus long, puis justement, on va aller plus dans la déconstruction, mais quand on veut vraiment commencer à apprendre à mettre ses limites, je pense qu'il pourrait peut-être, à force d'en jaser, je trouve que ça, tu sais, il pourrait avoir une plus-value aussi d'aller vers le travailleur social pour être justement dans le ici et maintenant, comment je fais pour aborder ça, alors que j'ai une thérapie qui est en cours pour autre chose, plein d'autres éléments qui sont super importants. Mais ça, c'est un outil que je peux aller rapidement mettre dans ma poche, là.
J'adore. Tu sais, t'as dit quelque chose ici et maintenant.
C'est comme ça que je vois, moi. Vous êtes dans le « pouf », dans le, c'est ça. Bien, pleine conscience, mais... pleine conscience, c'est ça, c'est le « ici et maintenant ». Mais moi, votre job, je la vois vraiment comme on part avec ça. Le passé, on peut y faire référence, mais on dirait que je vous vois vraiment que c'est comme... OK, là, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour m'aider avec cette problématique X-là?
Définitivement. Donc, tu sais, quand je te disais, on a une approche vraiment dans l'action, une approche où on va vraiment cibler des objectifs concrets, précis. Puis, paf, je t'ai dit au début, on a des suivis court terme, mais ça se peut aussi que les suivis soient un petit peu plus longs parce que, ben, on avait un objectif, on a travaillé un objectif, mais là, whoop, on enlève des plures d'oignons, on a encore d'autres choses à travailler. Donc, ça m'arrive d'avoir des suivis vraiment plus long terme avec des clients, mais on a toujours balisé nos objectifs. C'est très précis là, de la façon qu'on travaille.
Oui, puis pour en avoir vu des plans d'intervention, c'est ce que je trouvais chouette aussi. Je trouve que ça va vraiment, ça s'imbrique super bien avec la démarche en nutrition dans le type de clientèle que j'ai, là, finalement. Fait que, ben, je garde ton nom, je suis contente de t'avoir découverte. vraiment. J'ai plein de noms en tête de clients. Je dis, ah, tu sais, elle, oui, on en va jaser, puis on cherchait justement quelqu'un, puis voilà, c'est le fun. Puis en conclusion, tu voulais peut-être aborder un volet un petit peu plus personnel aussi, j'aurais aimé ça. Je te laisse la parole sur ce volet.
Ben écoute, moi je suis beaucoup, comment je pourrais dire ça, dans ma vulnérabilité. J'ai pas peur de parler de moi, de mon vécu. Pour moi, ben ça fait la personne que je suis actuellement, puis je suis une humaine. Peu importe le métier qu'on fait, ben on est humaine, puis on a un vécu, puis ben je pense que c'est correct, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise de partager leur vécu, leurs ondes plus leur part d'ombre, on va le dire comme ça là. Mais moi ça me dérange pas, puis c'est correct, fait que je travaille ça beaucoup de m'exposer un petit peu plus, puis de parler de mes vulnérabilités, puis ça fait de moi l'intervenante que je suis actuellement. Ouais. Parce que mon vécu, les choses que j'ai traversées, ben ça fait que... Ben c'est pas que je dis qu'on est obligé d'avoir vécu.
Non, je comprends ce que tu veux dire. Oui, je comprends, effectivement. Mais ça amène... Ben c'est parce que souvent, c'est que ça amène, je trouve, une compréhension qui est différente de passer par ces souliers-là. Fait que tu comprends un petit peu plus que les femmes que t'accompagnes vivent. Là, je dis femmes parce que j'ai beaucoup plus de femmes. Puis moi, je dis ça, puis j'ai pas eu de trouble alimentaire. J'ai pas une relation super difficile avec la nourriture et tout ça. Fait que c'est un peu... je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, je l'ai pas vécu. Fait que je suis en train de défaire le message que j'essaie de passer, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, puis je sais que les filles aiment ça. Ils peuvent justement se reconnaître un petit peu plus. Moi, ça, j'ai pas ce volet-là, mais je suis tellement trop dans l'empathie qu'à un moment donné, il a fallu justement, j'étais dans la sympathie, là, j'essaie d'être plus dans l'empathie. J'adore me mettre dans les souliers de la personne. Pour moi, ça, c'est la priorité d'aller comprendre ce que la personne vit. Je l'haïs, le bureau, là, tu sais, que t'as le professionnel, t'as un bureau entre les deux, puis t'as quasiment le sarrau qui fait que la personne est supposée être supérieure. Non, on est une équipe, on travaille ensemble. On va le tasser le bureau, là, puis on est accessible, puis on jase. Parce que toi, t'as ton expertise en tant que patient, t'as l'expertise de ton vécu, puis c'est pas vrai que tous les cas de relations troublées avec la nourriture, que c'est telle problématique, le problème, ben qu'ils sont tous pareils, puis qu'on va toutes les régler de la même façon. Vous êtes l'expert de votre propre vie, puis j'ai besoin de cette expertise-là pour être capable de t'accompagner puis de le travailler, le problème, finalement.
Oui, définitivement. Donc, moi, dans le fond, ce que je voulais partager par rapport à ça, c'est que j'ai eu dans le passé comme, mettons, une fragilité au niveau de mon poids, au niveau de l'image corporelle. Puis, je me souviens, mais ça fait un, tu vas voir le chemin que je vais prendre parce que ça m'a vraiment amenée à m'intéresser beaucoup aux troubles alimentaires. À ce moment-là, là, on parle des années 2005-2006. Et là, bon, là, ça, je vais essayer de faire une histoire courte avec tout ça. Quand même. C'est
Gros
qu'à ce
défi.
moment, ouais, c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, j'étais pas encore en train de faire mes études en travail social. Hein, je me cherchais dans la vie, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Et là, j'ai décidé de m'impliquer dans une ressource communautaire. Donc là, j'ai commencé à m'impliquer à la Maison de transition L'Éclaircie, qui est une ressource à Québec, une ressource communautaire là, en troubles alimentaires à Québec. Mais il y avait une raison pourquoi j'ai choisi cet
Oui,
emploi-là, tu comprends? Fait que
la
c'était comme
vie.
un peu un effet miroir, là. Fait que moi, j'ai commencé à m'impliquer à l'éclaircie et tout ça, de fil en aiguille, a fait que moi, j'avais pas d'expérience en intervention. Donc, à la base, je faisais de l'accueil. J'étais à la réception,
Ah
j'accueillais les gens,
ouais.
puis de fil en aiguille, on m'a formée pour faire de l'écoute téléphonique. En tout cas, bref,
Wow, OK.
c'est ça qui m'a donné la piqûre d'aller en
Ouais.
travail social, ouais.
La vie, des fois, c'est fou, là.
C'est fou, fait que tu vois toute la ligne, le chemin que j'ai pris, ça m'a amené là, puis ça a fait que par la suite, j'ai fait mon bac là, en travail social à l'Université Laval. Mais de travailler avec cette clientèle-là, de côtoyer des intervenants dans le domaine, moi, ça m'a fait comme cheminer aussi par rapport à mes propres bébites. J'ai
Mais
pas
oui,
eu
c'est fou.
de diagnostic de troubles alimentaires, mais j'avais une fragilité par rapport. Puis là, on se rend compte que c'est l'estime de soi, c'est la gestion des émotions, c'est toutes sortes de choses, tu sais, qui amènent à avoir une perception plus négative de soi. Donc, moi, ce chemin-là, ça m'a amené à avoir une bonne compréhension de la situation. Puis comme je te dis, faut pas, c'est pas obligatoire d'avoir vécu, parce qu'on peut pas avoir tout vécu
Non, c'est ça. Non, je comprends.
les situations, mais moi, j'ai eu une fragilité, puis maintenant, aujourd'hui, ça va bien. Ça va bien parce que j'ai travaillé autour. Hein? Je suis allée vraiment travailler. Ça, c'était plus un symptôme, mais j'étais allée creuser pour voir pourquoi. Fait que mon passage à l'éclaircie m'a amenée à faire du chemin sur moi. C'est magnifique, la vie, hein? La vie
Mais c'est
nous
ça que j'allais dire.
envoie où on peut aller, oui.
Mais c'est toujours ça, c'est tu peux pas faire quelque chose, une action que tu fais pour toi qui va mal virer. Ça, si cette action-là était nécessaire, ça va toujours amener quelque chose de bien ensuite. C'est comme je veux pas tomber dans le je suis pas super, je suis très rationnelle quand même dans la vie là, fait que c'est je suis pas dans le ton destin étouffé et tout ça, mais j'ai quand même une vision de la vie où si tu fais les... Merci de ton écoute. Si jamais tu as des commentaires ou des suggestions sur le podcast, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux Sarah Normandin, nutritionniste, Facebook et Instagram. Tu peux aussi consulter mon site internet saranormandinnutritionniste.com. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi.